Anton Tchekhov, valet de chambre ou récit d'un terrorisme. Chapitre 1. Par suite de circonstances qu'il est inutile de raconter en ce moment, j'avais dû entrer comme valet de chambre au service d'un certain Orlov, fonctionnaire à Pétersbourg. C'était un homme d'environ 35 ans. Son prénom et son nom patronymique étaient Georges Yevanitch. J'avais pris cette place chez Orlov à cause de son père, le célèbre homme d'État que je considérais comme un ennemi très sérieux de la cause à laquelle je m'étais voué. Vivant chez le fils, je pourrais sans doute, par les lettres et les documents que je trouverais sur son bureau, étudier dans leurs détails les plans et les intentions du père. D'habitude, vers 11 heures du matin, vibrait dans ma chambre la sonnerie électrique m'apprenant que mon maître était réveillé. Lorsque, ensuite, avec ses habits brossés et ses chaussures nettoyées, je pénétrais dans sa chambre, je trouvais Georges Ivanitch au lit, sur son séant, immobile, l'air non pas endormi, mais plutôt fatigué. Il tenait les yeux fixés devant lui et ne témoignait aucune satisfaction de son réveil. Je l'aidais à se vêtir et lui se soumettait à mes gestes en silence, machinalement, et sans paraître s'apercevoir de ma présence. Puis, la tête humide encore de ses ablutions effleurant de frais parfums, il passait dans la salle à manger. Là, s'étant mis à table, il prenait son café, parcourait les journaux, tandis que Pauline, la femme de chambre et moi, nous restions respectueusement près de la porte et le regardions boire. Deux êtres humains et d'un certain âge déjà en regardaient un troisième boire du café en grignotant des biscuits. Oui, cela ne peut que sembler ridicule et stupide, mais je voyais alors là rien d'humiliant pour moi dans cette obligation de rester là, quoique je fusse d'aussi noble origine et aussi instruit que Orlov. Ma phtisie commençait dès lors à poindre, et avec elle une autre chose plus grave peut-être que ce mal lui-même. Était-ce l'effet de la maladie qui déjà couvait en moi, ou celui du changement qui s'opérait dans mes vues et dont je ne me rendais pas compte encore. Chaque jour davantage, j'étais envahi par le désir passionné, violent, d'une existence paisible, tranquille. J'aspirais au calme de l'âme, à la bonne santé, au bon air, à la bonne chair. Je devenais un rêveur et, comme tous les rêveurs, je ne savais pas au juste ce qu'il me fallait. Tantôt, je voulais me retirer dans un monastère et y demeurer assis des journées entières, à la fenêtre, les yeux errants sur les arbres et sur la campagne. Tantôt, je m'imaginais achetant quelques acres de terrain et menant la vie d'un gentilhomme rustique. Tantôt, je prenais la décision d'étudier quelques sciences pour arriver, oh absolument, à être nommé professeur dans quelques facultés de province. J'avais été enseigne de vaisseau, donc je songeais à la mer, à notre escadre, à la corvette sur laquelle je fis jadis le tour du monde. J'avais envie d'éprouver une fois encore cette sensation inexprimable qu'on éprouve quand en se promenant dans une forêt tropicale ou contemplant un coucher de soleil dans le golfe de Bengale, on se sent comme mourir d'extase et qu'en même temps on souffre de je ne sais quelle angoisse à la pensée de son propre pays. Je rêvais de montagnes, de femmes, de musique, et avec une attentive curiosité, comme un petit garçon, j'observais les physionomies et j'écoutais les voix. Et quand je restais près de la porte en regardant Orlov boire son café, je ne faisais pas l'effet d'un domestique, mais d'un homme qui trouve de l'intérêt à tout dans le monde, même à un Orlov. L'extérieur d'Orlov était celui d'un pétersbourgeois. Épaules étroites, torse long, tempes osseuses, yeux de couleur vague, végétation rare et terne sur la tête et sur le visage. Sa figure était soignée, passablement usée et déplaisante. Elle était particulièrement désagréable quand il réfléchissait ou dormait. Oh, je ne sais trop s'il est bien utile de décrire un extérieur ordinaire. Aussi bien, Pétersbourg n'est pas en Espagne. La belle prestance n'y joue pas un grand rôle, même dans les affaires d'amour. Elle n'est guère avantageuse qu'aux valets et aux cochers de bonne maison. Oui, si j'ai fait mention des traits et des cheveux d'Orloff, c'est qu'il y avait dans son aspect général quelque chose qu'il vaut la peine de signaler. Voici. Lorsque Orloff ouvrait un livre ou un journal, quels qu'ils fussent, ou bien quand il entamait une conversation avec une personne, quelle qu'elle fût également, ses yeux commençaient à pétiller d'ironie, et toute sa physionomie revêtait une expression de raillerie légère et sans méchanceté. Avant même qu'il abordât une lecture ou un entretien, il tenait déjà son ironie toute prête, comme un sauvage tient ses boucliers. Cette expression lui était habituelle et, au temps où je le connus, apparaissait déjà sur sa face, sans l'intervention de sa volonté, apparemment par réflexe. Passé midi, Orloff prenait, toujours avec son masque railleur, sa serviette bourrée de papier, puis s'en allait à son bureau. Il dînait dehors et on ne le revoyait qu'après 8 heures. J'allumais alors dans son cabinet une lampe et des bougies. Lui s'installait dans un fauteuil, les pieds posés sur une chaise, et ainsi vautré, il se mettait à lire. Presque chaque jour, il apportait ou les éditeurs lui envoyaient de nouveaux livres. Dans tous les coins de ma chambre, à moi, il y en avait de ces livres. Des Français, des Anglais, des Allemands, sans compter les Russes, qu'Orloff avait lu puis jeté. Il lisait avec une rapidité singulière. Vous connaissez le proverbe « Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es ». C'est peut-être juste en général, mais se faire une opinion d'Orloff, d'après les volumes qu'il lisait, était chose politiquement impossible. Une véritable Macédoine. Il lisait tout, philosophie, roman français, économie politique, finance, œuvres des nouveaux poètes, brochures populaires. Et tout cela, Orloff le dévorait avec la même célérité, avec la même ironie dans les yeux. Après 10 heures, il s'habillait avec soin, endossait fréquemment l'habit noir et très rarement son uniforme administratif, puis sortait de nouveau pour ne revenir qu'à l'aube. Nous vivions ensemble, lui et moi, paisiblement, tranquillement, et il n'y avait aucun malentendu entre nous. Le plus souvent, il ne remarquait pas ma présence, et quand il me parlait, il déposait son masque. Il ne me considérait évidemment pas comme un être humain. Une fois seulement, je le vis fâché. C'était environ 8 jours après mon arrivée dans la maison. Il avait dîné en ville et il était rentré vers 9 heures avec une mine fatiguée et mécontente. Comme je le suivais dans son cabinet pour y faire de la lumière, il me dit « Il y a une mauvaise odeur ici ». Oh non, fis-je, l'air est pur. Et moi, je te dis qu'il y a une mauvaise odeur, répéta-t-il avec irritation. Et pourtant, j'aère tous les matins. Mais pas de raisonnement, hein, espèce d'imbécile. J'étais froissé. J'allais répondre, et Dieu sait comment cela aurait fini, si Pauline, qui connaissait son maître mieux que moi, n'était pas intervenue. « Mais c'est qu'il y a réellement une mauvaise odeur par ici, » fit-elle en haussant les sourcils. « Mais d'où peut-elle venir ?»« Stéphane, ouvre donc les ventilateurs du salon et allume du feu dans la cheminée. » Elle se mit à pousser des « ah !» et l'air affairé, parcourut les pièces, un vaporisateur à la main, et secouant avec bruit ses jupons. Mais Orloff était toujours de fort mauvaise chante humeur. Il se maîtrisait visiblement pour ne pas laisser éclater sa colère. Il était à son bureau, où il écrivait rapidement une lettre. Après avoir tracé quelques lignes, il proféra un son inarticulé qui traduisait sa colère et déchira la feuille. Le diable les emporte, grogna-t-il. Ils exigent de moi une mémoire surhumaine. Enfin, la lettre fut terminée. Il se leva et, s'adressant à moi, Tu prendras un fiacre, me dit-il, et tu iras rue Zamenskaya porter cette lettre à Madame Zenaïda Fiodorovna Krasnovskaya. Tu la lui remettras en main propre. Mais tu t'informeras d'abord auprès du portier si son mari, Monsieur Kranovski, est de retour. S'il est rentré, tu laisseras cette lettre à personne et tu me la rapporteras. Attends, au cas où elle te demanderait s'il y a quelqu'un chez moi, tu lui dirais que deux messieurs sont venus dès 8 heures et qui sont occupés à écrire. J'allais rue Znamenskaya. Le portier me dit que M. Krasnovski n'était pas encore de retour. Je montai donc au troisième où était l'appartement de Krasnovski. Ce fut un valet, grand et gras, à face basanée, à favoris bruns, qui vint m'ouvrir. Il me demanda, sur le ton lent, veulé et grossier, dont seul un valet parle à un autre valet, ce que je désirais. Je n'avais pas eu le temps de répondre qu'une dame en noir s'avança. Madame Zenaïda Fedorovna, y est-elle? Questionnai-je. C'est moi, répondit la dame. J'ai une lettre pour vous de Georges Ivanitch. D'un mouvement impatient, elle décacheta l'enveloppe et se mit à lire. Je pus voir son visage blanc, aux lignes suaves, au menton quelque peu proéminent, aux cils longs et noirs. On pouvait lui donner 25 ans au plus. Vous remercierez monsieur de ma part, dit-elle après avoir achevé sa lecture. Il y a quelqu'un chez Georges Ivanitch, reprit-elle d'une voix douce et comme honteuse de formuler un doute à ce sujet. Oui, madame, répondis-je, il y a deux messieurs en train d'écrire. Eh bien, remerciez monsieur de ma part, répéta-t-elle. Et, la tête un peu penchée de côté en relisant la lettre, elle quitta le vestibule d'un pas léger, sans bruit. Je voyais peu de femmes alors, et cette dame, aperçue pendant 3 minutes, m'intéressa fort. En retournant à la maison pédestrement, je me rappelais ses traits, son parfum délicat, et je rêvassais. Quand je revins, Orloff était déjà parti.
Chapitre 2. Donc, nous vivions ensemble, tranquillement, paisiblement, mon maître et moi. Néanmoins, comme je l'avais redouté en me faisant domestique, il y avait dans ma situation quelque chose de malpropre et d'offensant qui me faisait souffrir tous les jours. Je ne m'accordais pas avec Pauline. C'était une créature tout en chair et repue. Elle idolâtrait Orloff parce qu'il était un maître, et elle me méprisait, moi, parce que j'étais un domestique. Peut-être pour un vrai laquais ou un cuisinier était-elle séduisante. Elle avait les joues rouges, un nez retroussé, des yeux bridés. Elle était replète jusqu'à paraître presque obèse. Elle se poudrait, se teignait les sourcils, serrait sa taille dans un corset, mettait les robes à la mode et au poignet un bracelet fait avec des pièces d'argent. Elle avait une allure sémillante et sautillante et en marchant agitait ses épaules et sa croupe. Le bruit de ses jupes, le craquement de son corset, le tintement de son bracelet et cet ignoble mélange d'odeurs rouge à lèvres, vinaigre de toilette et parfums volés à son maître, me donnait chaque matin, quand je faisais l'appartement avec elle, l'impression de commettre en sa compagnie je ne sais quel acte répugnant, fût-ce parce que je ne volais pas, de connivence avec elle, les objets à notre portée, fût-ce parce que je ne manifestais aucun désir d'être son amant, ce qui la froissait peut-être, fût-ce enfin qu'elle devinait en moi un étranger, un homme d'une autre sphère que la sienne, toujours est-il qu'elle me haïait tout de suite. Ma gaucherie, mon air qui n'était pas celui d'un domestique, et le mal dont je souffrais déjà, lui semblaient misérables, et lui inspiraient un sentiment voisin du dégoût. Je toussais beaucoup alors, et quelquefois, la nuit, je tombais son sommeil, car sa chambre en était séparée de la mienne que par une mince cloison. Le matin, elle me disait « Oh, tu m'as pas encore blessé dormir de la nuit. Tu peux vraiment pas être en condition. Tu devrais aller à l'hôpital. » Elle était si loin de me considérer comme un homme, elle était si bien convaincue de mon évidente infériorité, que pareil à ces matrones romaines qui ne se gênaient nullement pour se baigner en présence de leurs esclaves mâles, elle se montrait à l'occasion devant moi en chemise. Une fois, en déjeunant, nous recevions tous les jours d'un restaurant un potage et un plat de viande. Comme j'étais d'une humeur excellente et quelque peu idéaliste, je lui demandais « Vous croyez en Dieu, Pauline ?»« Bien sûr !»« Vous croyez donc, continuai-je, qu'il y aura un jugement dernier et que nous serons appelés à répondre à Dieu lui-même de toutes nos mauvaises actions ?» Elle garda le silence et fit une grimace de mépris. En observant alors ses yeux cyniques et froids, je compris qu'il n'y avait en cette âme, si complète à sa manière, ni Dieu, ni foi, ni loi, et que si j'avais eu besoin de tuer, de voler, d'incendier, je n'aurais point trouvé, pour de l'argent, un meilleur complice que cette fille. Je n'étais pas habitué à être ainsi tutoyé, non plus qu'à mentir constamment, comme il le fallait dans cet emploi nouveau, à dire par exemple « Monsieur est sorti » quand il était là. Dans les premiers temps, mon existence chez Orloff fut assez difficile. Ma livrée de laquais me pesait comme une armure. Puis, je m'y accoutumais. Comme un véritable domestique, je servais à table, je faisais le ménage et toute espèce de commission. Quand Orloff n'avait pas envie d'aller chez Zenaïda Fedorovna ou bien oubliait qu'il lui avait promis sa visite, je sautais dans un fiacre et partais rue Zamenskaya, une lettre que je remettais en main propre à la destinataire en y ajoutant quelques mensonges. En définitive, mon but n'était pas atteint. Ce n'était pas cela que j'avais espéré en devenant valet de chambre. Chaque jour de ma nouvelle existence était perdu, aussi bien pour ma cause que pour moi-même. Orloff ne parlait jamais de son père. Ses visiteurs n'en parlaient pas davantage. Ce que j'apprenais de cet homme d'État, de ses faits et gestes, de ses intentions, je l'apprenais, comme auparavant, par les journaux et par ma correspondance avec mes camarades. Les centaines de lettres ou de papiers qui s'amoncelaient sur le bureau d'Orloff et que je parcourais n'offraient pas même un rapport éloigné avec ce que je cherchais. Orloff s'inquiétait fort peu des actes, cependant fameux, de son père. Il semblait n'en avoir jamais entendu rien dire, et il se comportait comme si son père était mort depuis longtemps. Chapitre 3. Les jeudis, nous avions du monde. Je faisais venir d'un restaurant un beau morceau de roast beef, et je téléphonais à un marchand de nous envoyer des huîtres, du caviar, du fromage, etc. J'achetais des cartes à jouer. Pauline préparait de bonne heure un service à thé avec tout ce qu'il fallait pour servir le souper. À vrai dire, ce petit remue-ménage donnait un peu de variété à notre vie oisive, et les jeudis étaient les jours que nous préférions. Les visiteurs n'étaient que trois. Le personnage le plus considérable et en somme le plus intéressant des trois était un certain Pekarski, un homme grand, sec, âgé d'environ 45 ans, avec un long nez recourbé, une épaisse barbe noire et un front assez dégarni. Ses yeux étaient gros, à fleur de tête, et sa physionomie était sérieuse, grave, comme celle d'un philosophe grec. Administrateur d'un chemin de fer, conseil d'une grande administration publique, il se trouvait de plus en relation d'affaires avec une foule de gens en qualité de tuteur, de liquidateur, etc. Son rang dans la hiérarchie officielle n'était pas important. Lui-même s'appelait modestement avocat à la cour, mais il exerçait une influence énorme. Sur une simple carte ou un mot de lui, une célébrité médicale vous recevait avant votre tour. Et vous aviez un accès facile chez l'ingénieur en chef de telle compagnie comme chez un haut fonctionnaire. On disait que par son entreprise, on pouvait obtenir un emploi équivalent à celui de préfet ou bien, dans un autre ordre d'idées, étouffer un scandale fâcheux. Il était considéré comme un homme très intelligent, mais c'était un cerveau particulier et bizarre que le sien. Il pouvait de tête multiplier instantanément des chiffres, comme 213 par 373, ou transformer des livres sterling en marques sans recourir au crayon. Il connaissait à fond les finances, les voies ferrées, et rien de ce qui touchait aux administrations les plus diverses n'avait de secret pour lui. Comme avocat d'affaires civiles, il comptait parmi les plus retors, de sorte qu'il était malaisé de lutter contre lui. Et avec tout cela, il y avait bien des choses que cette intelligence remarquable n'arrivait pas à comprendre et que pourtant comprenait une foule de gens même bornés. C'est ainsi qu'il n'arrivait pas à s'expliquer pourquoi des hommes pouvaient s'ennuyer, pleurer, se brûler la cervelle et même tuer autrui. Pourquoi ils se laissaient émouvoir ou agiter par des faits et qui ne les concernaient pas personnellement. Pourquoi ils riaient en lisant Gogol ou Tchédrine. Tout ce qui était abstrait, tout ce qui relevait de la pensée ou du sentiment était lettre morte pour lui. Il lui semblait fastidieux, comme la musique semble fastidieuse à qui n'a pas d'oreille. Il jugeait les hommes au seul point de vue des affaires et les divisait en capables et en incapables. Il n'admettait point d'autres catégories. L'honnêteté ou la distinction, ce n'est que des éléments secondaires de la capacité. On peut faire la fête, se livrer à la débauche, jouer aux cartes, pourvu que les affaires n'en souffrent pas. Croire à l'existence de Dieu n'est pas très fort, mais la religion doit être sauvegardée, car il faut un principe, un frein moral pour le peuple, lequel sans cela refuserait de travailler. Les punitions n'ont pour objet que de faire peur. Il est inutile d'aller à la campagne en été, car on est tout aussi bien à la ville, etc., etc. Il était veuf et n'avait pas d'enfant, mais il menait le train d'un homme marié et avait un loyer de 3 000 roubles. Le second visiteur, Kukushkin, un fonctionnaire encore jeune, mais déjà d'un grade élevé, était d'une taille inférieure à la moyenne, avec une figure exiguë et mince, tandis que tout son corps, au contraire, était gros et comme gonflé. Son visage, par ce contraste, offrait une expression tout à fait désagréable. Il avait une petite bouche en cœur et ses petites moustaches coupées court avaient l'air collées sur sa lèvre. C'était un homme au mouvement de lézard. Il n'entrait pas dans une pièce, il s'y glissait, faisant des pas menus, se balançant sur ses jambes et poussant des « hi-hi » en signe de satisfaction. Quand il riait réellement, il montrait ses dents par un rictus. Il était attaché à un gros fonctionnaire avec délégation spéciale et ne faisait rien, tout en recevant de forts émoluments, surtout en été où l'on inventait pour lui des missions fructueuses. C'était un arriviste jusqu'à la moelle des os, jusqu'à la dernière goutte de sang. Mais un arriviste d'une espèce vulgaire et comme étriquée, peu sûr de lui, et qui fondait sa fortune sur des sortes d'aumônes. Pour obtenir une infime décoration étrangère, ou pour être cité dans les journaux comme ayant assisté à un enterrement ou à quelque cérémonie religieuse parmi des personnages considérables, il était prêt à n'importe quelle humiliation, à n'importe quelle bassesse, aux plus viles flagorneries. Par lâcheté, il adulait Orlov et Pekalski, dans lesquels il voyait des hommes puissants. Il nous flattait, nous autres, Pauline et moi, parce que nous étions au service d'un gaillard influent. Chaque fois que je l'aidais à enlever son manteau, il me faisait « hi hi » et me demandait « Tu es marié, Stéphane, hein ?» Après quoi, il me débitait des saletés en témoignage de sa bienveillance particulière à mon égard. Il flattait les faiblesses d'Orlov, sa corruption morale, ses airs de blasé. Pour lui plaire, il faisait le persifleur et l'athée, délivrait avec lui tous ceux qu'ailleurs il encensait servilement. Si au souper, la conversation roulait sur les femmes, il jouait les débauchés, subtils et délicats. Il faut dire en général que les viveurs pétersbourgeois aiment à s'étendre sur leurs goûts étranges. Il en est qui, tout en étant pourvus d'une haute situation, se contentent fort bien des caresses de leurs cuisinières ou de quelques malheureuses faisant le trottoir sur la perspective Nevski. Mais à les entendre parler de soi, on jurerait qu'ils sont adonnés à tous les vices de l'Orient et de l'Occident, et affiliés à une dizaine de clubs secrets surveillés par la police. Ainsi, Kukushkin débitait sur lui-même les mensonges les plus impudents. On ne le croyait pas, et on écoutait ses racontars sans leur prêter la moindre attention. Le troisième visiteur, enfin, se nommait Krouzine. C'était le fils d'un général respectable et savant. Il avait l'âge d'Orlov. Il était blond, myope et portait des lunettes à monture d'or. Oh, je me rappelle ses cheveux blancs, ses doigts effilés et blancs, pareils à ceux des pianistes. Il y avait d'ailleurs, dans toute sa silhouette, quelque chose d'un musicien, d'un virtuose. Des types semblables tiennent souvent dans les orchestres le premier violon. Il toussait, souffrait de migraines, avait l'air chétif, maladif. Chez lui, on devait assurément le déshabiller et l'habiller comme un enfant. Il avait fait ses études dans une école de droit et débuté dans une administration qui dépendait du ministère de la Justice. Puis il trouva un emploi au Sénat. Il l'avait quitté pour un autre, dans un autre ministère, et celui-là pour un autre encore. Au moment où je le connus, il était dans l'administration de George Yavanich Orlov, où il était sous-chef de bureau. Il parlait cependant de le planter là et de retourner au ministère de la Justice. Ses fonctions et ses pérégrinations administratives, il les envisageait avec une rare légèreté, et lorsqu'on parlait devant lui, avec ce ton sérieux que le sujet comporte, d'avancement, d'appointement, de décoration, il souriait avec bonhomie et disait « Oui, oui, oh, le service, l'administration, il n'a que cela de vrai au monde. » Il avait une femme, une petite créature au visage ratatiné, très jalouse, et 5 enfants malingres. Il trompait sa femme et n'aimait ses enfants que lorsqu'il se trouvait avec eux. En somme, Il était assez indifférent à l'égard de sa famille et s'en moquait un peu. Il vivotait, faisant des dettes partout, à droite et à gauche, empruntant de l'argent toutes les fois qu'il le pouvait, même à ses chefs, même aux portiers. Nature molle, paresseuse jusqu'à l'apathie et qui s'en allait à la dérive sans savoir où ni pourquoi, il suivait quiconque voulait bien le conduire. On l'emmenait dans quelques repères, il y allait. On le plaçait du vin devant lui, il en buvait. N'en plaçait-on pas, il s'en passait très bien. Si l'on daubait sur les femmes en sa présence, il daubait sur la sienne, affirmant qu'elle lui avait fait manquer sa vie. Et si on louait les femmes, il louait la sienne, disant avec sincérité, « Oh, je l'adore, ma pauvre chérie !» Il n'avait point de pelisse et mettait en hiver un plaid qui sentait la nursery. Lorsque, au souper, devenu tout à coup pensif, il roulait des boulettes de mie et que distraitement il absorbait du vin en quantité, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en cet homme, quelque chose qu'il sentait peut-être vaguement lui-même, mais dont l'agitation et les triviales mesquineries de la vie l'empêchaient de se rendre un compte bien net. Il touchait un peu du piano. Quelquefois, il s'asseyait devant l'instrument, plaquait délicatement deux ou trois accords et chantait doucement « Que me réserve le jour qui vient ?» Mais aussitôt, comme effarouché, il se levait et s'éloignait du piano. Nos visiteurs sonnaient ordinairement vers 10 heures. Il s'installait dans le cabinet d'Orloff et y jouait aux cartes, tandis que Pauline et moi, nous leur servions le thé. C'est là que j'ai pu apprécier toutes les délices de la condition d'un domestique. Demeurer debout pendant 4 ou 5 heures près de la porte, veiller à ce que les verres vides soient aussitôt remplis de nouveau, changer les cendriers, se précipiter vers la table pour ramasser une carte ou un morceau de craie tombé à terre, mais surtout se tenir debout et attentif, sans oser dire un mot, ni tout sauter, ni sourire. Non, cela, je vous assure, est bien plus dur que le plus dur labeur de paysan. Jadis, il m'est arrivé, les nuits d'hiver, dans l'ouragan, de faire le quart sur le pont d'un navire. Eh bien, c'était, sans comparaison, beaucoup moins pénible. Il jouait aux cartes jusqu'à 2, quelquefois jusqu'à 3 heures. Il se rendait ensuite dans la salle à manger pour souper. Oui, comme disait Orloff, pour casser une croûte. À table, il causait. C'est Orloff qui, d'habitude, entamait la conversation avec des yeux qui riaient sur quelques personnes de leurs relations communes, sur un livre lu récemment, sur l'avancement ou la permutation de quelques dignitaires en vue, sur un projet de loi. Aussitôt, le flagorneur Koukouchkine de renchérir, et alors commençait un chasse-croisé de propos qui, dans mon état d'âme, me semblait écœurant. La raillerie d'Orloff et de ses amis n'avait pas de borne et n'épargnait rien, ni personne. La religion, la philosophie, le but et le sens de la vie, le peuple, il le raflait tout. On rencontre à Pétersbourg une catégorie nombreuse de gens qui plaisantent sur tout dans la vie et qui, même en présence d'un famélique ou d'un suicidé, ne peuvent retenir une seule plaisanterie. Orloff et ses amis ne plaisantaient pas, eux, ils raillaient. Il disait que Dieu n'existe pas et que la personnalité humaine, avec la mort, cesse à tout jamais. En fait, d'immortels, il n'y a que ceux de l'Académie française et encore. Le vrai bien n'est pas et ne peut pas dire être car il suppose la perfection humaine. Or, celle-ci est une pure entité logique. La Russie est un pays non moins pauvre et non moins ennuyeux que la Perse. Les intellectuels russes sont des gens lamentables. Pour Berkowski, c'était dans l'énorme majorité des cas des gens incapables et qui n'en étaient bons à rien. Le peuple est alcoolique, paresseux, voleur et dégénéré. Nous n'avons point de science, notre littérature est balourde, notre commerce est fondé sur la fraude et sur le principe qu'il faut tromper pour vendre avantageusement, etc., etc. Toujours, toujours, en se raillant de tout. Le vin bu donnait, vers la fin du souper, une impulsion plus gaie aux esprits et une tournure plus leste à la causerie. On plaisantait la vie de famille de Grudzine, les victoires amoureuses de Kukushkine, et un certain carnet de dépenses de Piekarski, où on regarde une feuille ornée de cette inscription « Pour les œuvres pies » ouvrait un autre compte intitulé « Pour les besoins physiologiques ». On prétendait qu'il n'y a point d'épouse fidèle ni de femme dont, avec un certain savoir-faire, où on ne puisse obtenir les faveurs sans quitter le salon. Cependant qu'à deux pas de là, dans son cabinet, le mari sera occupé à son travail. Les fillettes n'ignorent déjà rien. Orlov conservait la lettre d'une lycéenne, une gamine de 14 ans à peine, écrivant qu'elle avait accompagné chez lui un officier rencontré au sortir du lycée et qu'il avait gardé jusqu'à la tombée de la nuit. Elle s'était empressée de raconter ses impressions à l'une de ses amies. Il disait que la pureté des mœurs n'a jamais existé et qu'elle était évidemment inutile. L'humanité s'en est jusqu'à présent fort bien passée. Quant au mal causé par ce qu'on est convenu d'appeler la débauche, ce mal est assurément fort exagéré. Certains vices contre nature, punis par notre code, n'a pas empêché Diogène d'être un maître et un philosophe. César et Cicéron, tout débauchés qu'ils fussent, n'étaient-ils pas de grands hommes, nonobstant? Le vieux Caton épousait une toute jeune femme, mais continuait à être considéré comme un homme de mœurs rigide et un censeur de la moralité. Vers 3 ou 4 heures, nos visiteurs partaient. Quelquefois Orlov s'en allait avec eux chez une certaine Varvara Osipovna dans la rue des Officiers. Je regagnais alors ma chambre et pendant longtemps, je ne pouvais fermer l'œil à cause de ma toux. Chapitre 4. Environ 3 semaines après mon arrivée chez Orlov, un matin, c'était, s'il m'en souvient, dimanche, quelqu'un sonne à la porte. Il n'était pas encore 11 heures, Orlov dormait encore. J'allais ouvrir. Imaginez ma stupéfaction lorsque je vis sur le palier une dame voilée. « George Ivanitch est là ?» demanda-t-elle. À la voix, je reconnus Zenaïda Fyodorovna. Je lui avais porté assez de lettres, Ruslasminskaya. Je ne sais plus maintenant si, oui ou non, je lui répondis quelque chose. Son apparition m'avait troublé. Je crois d'ailleurs qu'elle n'avait pas besoin d'une réponse. En un clin d'œil, elle glissa devant moi, remplissant toute l'antichambre de son parfum, que je me rappelle encore très bien aujourd'hui. Elle pénétra dans l'appartement et bientôt le son de ses pas légers s'éteignit tout à fait. Durant une demi-heure au moins, je n'entendis plus rien. Puis on sonna de nouveau à la porte. Cette fois, c'était une jeune fille bien mise, probablement femme de chambre chez les gens riches, qui, aidée par notre concierge autant qu'elle essoufflait, apportait 2 valises et une grande malle en osier. « C'est pour Zenaïda Fyodorovna !» déclara la jeune fille. Et elle repartit sans ajouter un seul mot. Tout cela était mystérieux et faisait sourire malignement Pauline, qui avait un respect religieux jusque pour les caprices de son maître. Elle avait l'air de vouloir dire « Voilà comme nous sommes, nous autres vers galants. » Et tout le temps, elle marchait sur la pointe du pied. Enfin, les pas légers se firent de nouveau entendre. Zenaïda Fiodorovna fit irruption dans le vestibule que je traversais pour me rendre dans ma chambre et elle me dit « Stéphane, porte donc à Georges Ivanitch ses habits. » Lorsque j'entrais chez Orlov avec ses vêtements et ses chaussures, je le trouvais assis sur son lit, les jambes pendantes, les pieds sur la peau d'ours. Toute son attitude dénotait la confusion. Il ne me remarquait pas, moi. Il s'inquiétait fort peu de mes impressions, à moi, laquais. Aussi n'était-il confus que devant lui-même, devant son propre œil intérieur. Il s'habillait, se lavait, maniait ses peignes et ses brosses lentement et en silence, comme pour se donner le temps de bien réfléchir à la situation et de s'y reconnaître bien clairement. Il n'était pas jusqu'à son dos qui ne décela son trouble et son mécontentement de lui-même. Ils burent le café ensemble. Zenaïda Fiodorovna l'avait versé dans les deux tasses, puis les coudes posés sur la table et riant. « Oh, j'ai peine à m'imaginer que je sois ici, » dit-elle. « Après qu'on a voyagé longtemps et qu'on est arrivé dans un hôtel, on se refuse à croire qu'on a pu apprendre le train. » Comme il est agréable de pousser un soupir de soulagement. Et telle une petite fille qui brûle de faire une gaminerie, elle poussa un soupir, et puis elle rit encore. « Vous m'excuserez, » fit Orlov en désignant de la tête ses journaux, « lire en prenant mon café, c'est mon habitude irrésistible. Mais je sais faire de besogne à la fois, et lire et écouter. » Certainement, lisez donc, lisez, je vous en prie. Vos habitudes de votre liberté doivent rester intactes. Mais dites-moi, pourquoi avez-vous cette figure de carême? Êtes-vous toujours ainsi le matin ou n'est-ce qu'aujourd'hui? Vous n'êtes pas content? Non, au contraire, mais j'avoue que je suis un tantinet ahuri. Mais pourquoi donc cela? Vous auriez eu le temps de vous préparer à mon irruption. Je vous en avais assez menacé tous les jours. Oui, mais je m'attendais peu à vous voir exécuter votre menace, justement aujourd'hui. Mais je ne m'y attendais pas moi-même. Mais c'est mieux ainsi. C'est mieux, cher ami. On arrache une dent mauvaise d'un coup et c'est fini. Oui, sans doute. « Ah, mon chéri, » dit-elle en baissant les paupières, « tout est bien qui finit bien, mais avant que cela eût bien fini, que de misère !»« Vous me voyez joyeuse, oh, mais ne vous y fiez pas. Je suis heureuse, mais j'ai plus envie de pleurer que de rire. Hier, j'ai dû soutenir un véritable assaut, » poursuivit-elle en français. Dieu seul sait combien cela m'a été pénible. Mais je ris parce que je ne réussis pas à me persuader que tout cela est vrai. Il me semble que je suis ici avec vous à prendre le café, non pas dans la réalité, mais dans un songe. Puis, toujours en français, elle retraça les péripéties de l'explication qu'elle avait eue la veille avec son mari, dont elle s'était séparée définitivement. Ses yeux tantôt se voilaient de larmes, tantôt riaient et regardaient Orlov avec ravissement. Elle raconta que son mari la soupçonnait depuis longtemps, mais évitait avec soin tout entretien à ce sujet. Il y avait des scènes entre elle et lui, et même souvent. Mais au moment le plus chaud, il se taisait tout à coup et regagnait son cabinet de travail pour ne pas lui dire ses soupçons. Dans l'excitation de la querelle, ni lui fournir à elle-même prétexte à faire des aveux. Elle, cependant, se sachant coupable envers lui et se sentant veule, sans force pour un acte hardi et grave, endurait des tourments d'enfer. Elle se haïssait elle-même et haïssait son mari chaque jour davantage. Mais la veille, au cours d'une nouvelle dispute, comme il s'écriait d'une voix larmoyante. « Mais quand donc cela finira-t-il, mon Dieu ?» et se retirait dans son cabinet. Elle avait couru après lui, comme un chat après une souris, et l'empêchant de refermer la porte, avait crié qu'elle le détestait de toute son âme. Alors il l'avait reçue là, et, séance tenante, elle lui avait tout avoué. Elle en aimait un autre, qu'elle considérait comme son véritable et unique mari légitime, et elle croyait enfin de son devoir, un devoir de conscience, d'aller vivre avec lui sur le champ. Ce qu'elle ferait malgré tout, c'est malgré tout, du ton tiré sur elle. « Oh, vous êtes bien romantique !» fit Orloff, sans détacher les yeux de son journal. Elle riait et continua son récit, sans toucher à sa tasse. Ses joues s'empourprèrent d'animation. Elle-même en fut un peu gênée. Parfois, elle jetait sur Pauline et sur moi des regards légèrement confus. La suite de son discours m'apprit que son mari lui avait répondu par des reproches, des menaces et, finalement, par des larmes. Il aurait été plus exact de dire que ce n'était pas elle, mais bien lui, qui avait soutenu un véritable assaut. « Mon ami, disait-elle, tant que mes nerfs restèrent tendus, oui, tout alla bien. Mais lorsque vint la nuit, oh, je sentis faiblir mon énergie. Vous, Georges, vous ne croyez pas en Dieu. Moi, si un peu, et je crains le châtiment. Dieu exige de nous la patience, la magnanimité, l'abnégation. Et moi, vous le voyez, je me refuse à être patiente et à souffrir. Je veux arranger ma vie à ma guise. Est-ce bien, est-ce mal au regard de ce Dieu ? » À 2 heures du matin, mon mari vint chez moi et me dit « Vous n'aurez pas l'audace de partir, ou bien je vous ferai aussitôt ramener par la police. Et quel scandale !» Puis, un peu après, le voilà de nouveau sur le pas de la porte, qui me dit « Mais épargnez-moi, votre départ peut me nuire dans ma carrière. » Oh, ces paroles produisirent sur moi l'effet d'un grossier attouchement et me bouleversèrent. Il me sembla que mon châtiment commençait déjà, et je tremblais de peur, et je pleurais. Je craignais que le plafond ne s'écoulât sur ma tête, que la police ne vînt me chercher, que vous ne cessiez de m'aimer, quoi encore. Je me disais que je renoncerais à mon bonheur, que je me ferais religieuse ou sœur de charité. Mais soudain, je me rappelais que vous m'aimiez, que je n'avais pas le droit de disposer de moi-même sans votre consentement. Alors, dans ma pauvre cervelle, les pensées se mirent à tourner, à se mêler, et, désespéré, je ne savais plus à quelle idée m'arrêter, je ne savais plus que faire. Mais le soleil se leva et je redevins gai. Aussitôt, je m'en suis allé vers vous et me voici. Ah, mais quel tourment! Je suis à bout de force, mon chéri. Je n'ai pas fermé l'œil ces 2 nuits entières. Elle était fatiguée et excitée à la fois. Elle eût désiré en même temps et dormir et parler. Parler sans fin, et rire, et pleurer, et aller déjeuner dans un restaurant, pour bien savourer sa liberté. Tu as un joli appartement, mais je crains bien qu'il ne soit un peu petit pour nous deux, disait-elle après le café, en visitant rapidement toutes les pièces. Quelle chambre me donnes-tu ? Moi, je voudrais bien celle-ci, parce que elle est contiguë à ton cabinet. Vers 1 heure, elle changea de robe dans la pièce contiguë au cabinet d'Orloff, et qu'elle appelait maintenant sa chambre. Puis ils sortirent. Ils déjeunèrent et dînèrent au restaurant, et dans l'intervalle visitèrent les magasins. Toute la journée, je dus ouvrir la porte à des commissionnaires et à des employés embarrassés de paquets. On apporta ainsi une magnifique psyché, une table de toilette, un lit et un service à thé superbe dont nous n'avions aucun besoin. Puis toute une famille de casseroles que nous disposâmes, Pauline et moi, l'une à côté de l'autre, sur une planche,
dans notre cuisine vide et froide. Comme nous défaisions le paquet où était le service à thé, les yeux de Pauline brillèrent et elle me lança, par trois fois, un regard tout chargé de haine et d'appréhension, où se lisait la crainte que ce ne fût moi le premier à voler une de ces gracieuses petites tasses. On apporta aussi un bureau pour dame, très cher, mais incommode. Visiblement, Zenaïda Fiodorovna avait l'intention de s'installer chez nous solidement en maîtresse de maison. Elle rentra avec Orlov après 9 heures. Toute pénétrée de la fière conscience d'avoir accompli un acte hardi, peu commun, passionnément éprise et, pensait-elle, passionnément aimée, alanguie et goûtant par avance un long et bienfaisant sommeil, Zenaïda Fiodorovna avait l'air de boire à pleines lèvres sa nouvelle existence. Enivrée d'un bonheur débordant, elle se serrait les mains elle-même avec vigueur, déclarait que tout allait à merveille, jurait d'aimer éternellement son Orlov. Et ses serments naïfs, la certitude ingénue, presque puérile, qu'elle était adorée avec une ardeur égale et non moins éternelle, la rajeunissait de 5 bonnes années. Elle gazouillait des riens charmants et se moquait d'elle-même. Puis, voulant reprendre son sérieux et dire quelque chose de grave et d'important, « Il n'y a pas de bien au-dessus de la liberté, » fit-elle. « Dire que l'on agit presque toujours d'une manière si absurde, nous n'attachons aucun prix à nos propres opinions. » Pour sensé qu'elle soit, et nous nous inclinons devant l'opinion d'un imbécile. Moi, j'avais peur du qu'en dira-t-on jusqu'à la dernière minute. Mais je résolus de n'obéir qu'à moi-même et de ne vivre qu'à ma guise. Et mes yeux, du coup, se dessillèrent. Je vainquis mes sottes frayeurs et me voici heureuse. Heureuse à souhaiter un pareil bonheur à tous. Mais le fil de ses pensées se brisait aussitôt. Et elle parlait de louer un autre appartement, d'acheter chevaux et voitures, de faire un voyage en Suisse et en Italie. Orlov, lui, était fatigué par les courses à travers les magasins et dans les mains-restaurants. De plus, il n'avait pas cessé d'éprouver cette confusion devant soi-même que j'avais remarquée le matin. Il souriait, mais par politesse plutôt que de plaisir. Et quand elle disait quelque chose d'un ton sérieux, il acquiesçait d'une voix ironique. « Oh oui, Stéphane, » dit-elle tout à coup en s'adressant à moi, « tâchez de nous procurer un bon cuisinier. »« Oh, pour cela, rien ne presse, » intervint Orlov en me regardant avec froideur. « Il faut d'abord s'installer dans un autre appartement. » Il n'avait ni cuisinière, ni chevaux chez lui, parce qu'il ne se souciait pas, comme il disait, d'avoir de la malpropreté dans sa maison. Pauline et moi, il nous subissait par nécessité. Ce qu'on appelle un foyer avec ses joies et ses mesquineries nécessaires froissait les goûts d'Orlov comme une trivialité. C'était quelque chose de vulgaire à ses yeux, c'était mauvais genre que d'avoir chez soi une femme enceinte, des enfants. J'étais curieux de savoir comment allaient vivre ensemble et s'entendre sous un même toit ces deux êtres si différents. Elle aimant son intérieur, achetant des casseroles, rêvant d'avoir un bon cuisinier, des chevaux, et lui répétant si volontiers à ses amis que dans la maison d'un homme comme il faut, d'un homme propre, il ne doit y avoir, comme sur un navire de guerre, rien d'inutile, ni femme, ni enfant, ni batterie de cuisine.